Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de cette présentation et de cette invitation. Surtout, je suis très heureux de cette occasion, pour moi très importante, de prolonger à la fois des relations et des questions. Des relations qui existent déjà depuis longtemps, avec Pierre Hume, par exemple. Trop modeste pour rappeler qu'il a soutenu une thèse de philosophie à l'université de Lille 3 hein, sur l'histoire de problèmes de la mémoire et de l'oubli en particulier. Et donc on se connaît depuis longtemps finalement à travers la philosophie d'abord, et puis maintenant c'est moi. Enfin, après que Pierre est venu finalement vers la philosophie, c'est certains philosophes qui viennent vers la médecine, le soin et le champ dans lequel vous travaillez. Donc c'est des relations que je suis très heureux d'approfondir, aussi très heureux d'approfondir les relations avec l'espace éthique hospitalo-universitaire de Lille, dont la mise en place est un événement important, véritablement, et ce que vous avez souligné, l'idée d'une plateforme qui associe effectivement les diverses disciplines médicales, mais aussi les diverses disciplines intellectuelles, j'allais dire au sens large, les sciences humaines et la philosophie, est tout à fait essentielle. Et oui, je pense qu'il faut absolument le continuer et même le développer, au niveau régional, national et international d'ailleurs, mais enfin aussi au niveau vraiment de ce qu'on peut et ce qu'on doit faire ensemble ici. Et puis prolonger aussi donc ces relations avec ces questions, je vais dire, pour arriver vraiment au thème de la soirée. Pour moi, c'est l'occasion d'essayer de proposer une hypothèse, effectivement, d'essayer de proposer une hypothèse qui serait celle du prolongement des thèses que j'ai pu esquisser ici ou là dans le domaine de la santé mentale, sur lequel je n'ai aucune compétence, et donc sur lequel je voudrais plutôt proposer des thèmes de discussion. Hein. Vraiment, c'était ça aussi l'idée initiale de la soirée. Et ainsi nouer quand même aussi des relations avec les questions éthiques et l'association que vous formez pour prolonger à la fois donc des relations et des questions. Et donc je suis très heureux de cette occasion ce soir. Donc je ne vais pas faire de préambule plus long. Je n'ai pas préparé de véritable conférence en bonne et due forme, mais néanmoins je vais essayer de vous proposer et d'essayer de développer disons un cadre général, une hypothèse générale, et même une hypothèse un peu risquée, notamment par rapport à ce que vient de dire Pierre Hume. Une hypothèse un peu risquée et générale, mais que je voudrais essayer de défendre et d'illustrer, et que je vais commencer par énoncer. Je voudrais en effet défendre une thèse un peu paradoxale sur le thème de cette soirée, c'est-à-dire sur la relation de soins en santé mentale. Mais cette thèse est paradoxale, mais je la préciserai évidemment, et je voudrais la défendre seulement à une condition. Donc ce que je voudrais énoncer d'abord, c'est la thèse, mais en indiquant tout de suite qu'elle, je ne l'entends qu'à une condition que je vais énoncer aussitôt après, et qui est tout aussi essentielle que la thèse elle-même. C'est-à-dire que la thèse elle-même peut surprendre, mais c'est la thèse et la condition complémentaire de la thèse qui me paraissent importantes. La thèse que je voudrais soutenir à titre d'hypothèse proposée ce soir, c'est la thèse selon laquelle la relation de soins en santé mentale est une relation de soins comme les autres. C'est une relation de soins comme les autres. Que le soin en santé mentale est un soin, j'allais dire, comme un autre. Mais la condition de cette thèse, de validité de cette thèse, qui évidemment est une thèse un peu provocante en un certain sens, enfin, c'est pas du tout pour dire qu'il y a des spécificités, je vais y revenir dans un instant. La condition de cette thèse, c'est que dire que la relation de soins en santé mentale est une relation de soins comme les autres, que le soin psychiatrique, disons, le soin en santé mentale est un soin comme un autre, ça a une condition, c'est que ça ne veut pas dire que la relation de soins mentale, disons, ou en santé mentale, est aussi simple que les autres, selon une conception simpliste du soin que nous avons parfois en tête, mais plutôt que la relation de soins en santé mentale est une relation de soins aussi complexe que les autres. Et qu'elle n'est une relation de soins comme les autres que si nous changeons notre concept du soin en général, si nous approfondissons notre concept de soins en général. De telle sorte qu'en réalité, la singularité du soin psychiatrique, à mes yeux, n'est pas d'être une exception par rapport à un soin qu'on localiserait, disons selon une antique coupure d'ailleurs, du physique et du psychique, du corporel et du mental, finalement de l'âme et du corps en un certain sens. Hein. mais plutôt, donc non pas une exception à un soin ordinaire qui serait au fond référé au corps pris dans son objectivité, mais plutôt un cas certes singulier, peut-être extrême, mais non pas exceptionnel, parce qu'il révélerait plutôt, il mettrait en lumière des dimensions qui sont présentes aussi dans toutes les autres formes du soin. Et donc c'est un soin comme les autres, non pas pour être réduit à un soin minimal, mais plutôt pour permettre de hisser le soin en général à ces dimensions qui sont évidentes dans le soin psychiatrique, mais qui sont masquées peut-être dans d'autres dimensions du soin. Et donc il s'agit de dire que le soin en santé mentale est un soin comme un autre, mais encore une fois, plutôt pour compliquer le soin en général que pour réduire la singularité du soin en santé mentale. Non pas aussi simpliste qu'on s'imagine les autres, mais aussi complexe que sont réellement les autres formes du soin. Et donc, pour comprendre, pour développer un peu cette hypothèse générale, ce sur quoi je voudrais revenir, et ça prolonge en effet les différentes étapes de la réflexion déjà un peu longue, mais nécessairement progressive, sur le soin aujourd'hui, pour donc développer cette hypothèse générale, je voudrais revenir sur la relation de soin en général et essayer de montrer qu'elle comporte plusieurs dimensions qui sont toutes présentes à des degrés divers dans la relation de soin en santé mentale et qui posent pour chacune d'elles quand même, enfin qui certes ces hypothèses sont présentes dans toutes les formes de soins, mais qui sont présentes d'une manière singulière dans la relation de soins en santé mentale. D'ailleurs, je trouve que l'expression est très intéressante, j'y reviendrai. Et cette singularité, donc, j'ai essayé de la développer dans chacun des aspects. Je voudrais donc revenir sur non seulement deux, mais ce que j'appellerais trois dimensions de la relation de soins, c'est-à-dire de toute relation de soins, quel que soit l'objet de cette relation de soins. Et en dépassant, au fond, nos clivages peut-être, au fond, encore basés sur des distinctions métaphysiques implicites, comme celle de l'âme et du corps, du psychique et du physique, qui ne sont pas absentes, mais qu'il faut peut-être redécouper autrement pour bien comprendre de quoi il est question. Donc, trois dimensions qui sont présentes dans toutes les relations de soins, mais de façon variable, en un certain sens. Et c'est cette différence de degré qui peut parfois devenir une différence de nature, qui peut parfois changer radicalement les choses, comme par exemple sur des questions comme celle du consentement, que je voudrais illustrer dans chacun des cas, dans chacun des trois cas, à propos de la relation de soins, disons, psychiatrique ou mentale, en santé mentale. Quelles seraient donc ces trois dimensions de la relation de soins, ces trois formes de la relation de soins, étant entendu qu'il ne s'agit pas seulement de type de soins, mais de type relationnel de soins. Et qu'en effet, à chaque fois, il s'agit d'une relation, et d'une relation dont un certain type d'usage est immédiatement éthique, puisqu'une relation, toujours une relation entre les hommes, est toujours susceptible, au fond, de normes morales, c'est-à-dire, au fond, d'être exercée d'une façon qui permet son exercice, j'allais dire, normal, ou d'une façon qui, au contraire, le rend impossible, le transgresse, le brise, le détruit. Autrement dit, il y a dans chacune des relations aussi une norme éthique, une limite morale, et peut-être aussi politique. Et c'est cette limite, vous disiez que vous vouliez parler de cette question, que je désignerais sous le nom de rupture morale ou de violation. Chacune de ces relations... Pardon, j'ai dû toucher quelque chose. Voilà. Chacune de ces relations ayant donc aussi une sorte de dimension morale interne. La morale n'étant pas réservée, je le dis tout de suite, à un aspect de la relation. Ça me paraît fondamental parce que souvent on réserve la morale à un aspect et en fait elle est présente dans chacun des aspects. Là, par contre, j'ai rien fait là. Par contre, je suis innocent là. Bon. C'est la batterie, peut-être. Okay. Ouais. Donc la première dimension de la relation de soins est une dimension qui a pris seulement récemment, évidemment, une forme très développée en santé mentale. C'est la dimension qu'on pourrait dire objective de la relation de soin. Ce que je veux dire par là, c'est que soigner... bon, ça marche. Soigner, c'est d'abord, et je dirais même c'est toujours d'abord, soigner quelque chose. Soigner, c'est soigner un dysfonctionnement isolable, déterminable, d'un corps vivant, et plus précisément, sans doute d'ailleurs, d'un corps humain préalable, même s'il y a une extension, évidemment, possible du soin, y compris au corps des animaux, peut-être à la vie en général, peut-être à l'environnement, au monde, à la planète, mais je défendrai l'idée pour différentes raisons que le soin est d'abord une relation interhumaine, mais c'est pas l'objet ici d'ailleurs, peu importe. Donc le soin est d'abord une pratique qui consiste à venir traiter, comme on dit dans ce cas très précis, un mal, un dysfonctionnement déterminé qui empêche, qui fait obstacle à une fonction précise de la vie d'un corps individuel. De la vie d'un corps individuel. Un mal donc isolable, identifiable, traitable par un savoir et par des techniques précises. Cela a déjà plusieurs conséquences. D'abord, il faut objectiver le mal en question, comme quand on a une jambe cassée, c'est plus facile, et la technique qui permet de le traiter. De plus, cela suppose que on dispose à la fois du savoir et du pouvoir, des moyens pour traiter ce mal, et la relation qui s'établit entre les hommes, ou même parfois à l'intérieur d'un même individu, est une relation entre une faiblesse déterminée et une capacité déterminée. Je souffre d'un mal déterminé, et quelqu'un, ou bien moi-même, j'ai aussi le pouvoir déterminé de traiter ce mal déterminé. La relation de soin est ici donc fondamentalement une relation dissymétrique, là aussi vous voyez qu'on en reparle à un moment donné, une relation de pouvoir en un sens neutre, une relation, disons, entre une faiblesse et une compétence, une capacité, qui peut devenir une relation de pouvoir en un sens moral, évidemment, de domination. Ce premier aspect de la relation de soin, évidemment, a mis longtemps, je dirais, à s'appliquer au domaine des maladies mentales. C'est-à-dire, au fond, l'objectivation des maladies mentales, ou en santé mentale, a toujours été un problème, a toujours posé problème, et trouve seulement aujourd'hui, finalement, de plus en plus, un support objectif qui, d'ailleurs, ne l'empêche pas de poser toujours problème. L'idée que les troubles mentaux d'une subjectivité humaine, qui a fait que l'ensemble de sa vie puisse être référé à des lésions déterminées d'un organe, par exemple le cerveau, et qu'il puisse être traité comme des maladies du corps, cette idée a toujours, au fond, fait problème. Et pose un problème à la fois métaphysique, on pourrait dire, hein, comment se fait-il qu'un simple... Une simple lésion à l'intérieur de notre crâne affecte, par exemple, l'accès à notre personnalité, à notre mémoire, à notre vie profonde, perturbe nos relations avec les autres, nous rend agressifs ou au contraire déprimés, etc. Mais cette objectivation, à mon avis, a quelque chose d'irréductible, et c'est pour ça que je dirais que dans un premier temps, il faut soutenir qu'en ce sens aussi, la relation de soins psychiatrique est une relation de soins comme les autres. Il ne faut ici pas dire qu'elle est physique, il ne s'agit pas de dire qu'elle est physique, mais qu'elle procède, enfin, il faut dépasser l'opposition du physique et du psychique, en ce sens que physique ou psychique, ce premier niveau du soin procède par identification d'un problème déterminé, réglable par des techniques déterminées, et par des, on peut le dire aussi, par des médecines déterminées, des médicaments déterminés, par exemple. Ici, on entre dans le régime de la nosographie, on isole des formes de maladie, dans un régime aussi d'identification des signes de la maladie et du traitement de la maladie par des techniques, des médicaments, etc. Cette dimension, encore une fois, me paraît fondamentale. Elle n'est pas sans poser problème. Mais néanmoins, elle est une dimension majeur peut-être dans un certain type de médecine, peut-être mineur ou en apparence qui devient en ce moment évidemment très, très puissante en santé mentale, mais présente, je dirais, dans toute forme de soins. Il n'y a pas de forme de soins sans secours objectif apporté à un tort objectif. Même le soin le plus amoureux, le soin parental, le soin amical, le soin amoureux, passe aussi par le secours apporté à des problèmes déterminés. Qu'est-ce que ce serait qu'une mère aimant son enfant, mais ne lui donnant pas de médicaments s'il a la fièvre, ne le nourrissant pas s'il a faim, etc. Donc, même le soin relationnel le plus profond passe par des techniques déterminées de secours pour des maux déterminés. Et l'origine du soin, c'est quand même nos défaillances techniques ponctuelles, y compris quand elles prennent des formes mentales. Et on nous parlait tout à l'heure, comment identifier le pathologique dans la santé mentale, c'est quand même par des formes déterminées de défaillance, de problèmes, peut-être pas forcément conscientes d'ailleurs, mais déterminées de l'extérieur et qui occasionnent des problèmes vitaux. C'est-à-dire tout à coup, la vie se passe moins bien sur tel et tel problème. Avec d'ailleurs la question de ce qui ici fait le mal en question, le se passer moins bien, est-ce que c'est juste des problèmes d'adaptation, des problèmes, ou bien est-ce que c'est... Mais en tout cas, on détermine des défaillances précises, objectives. Un dernier point que je voudrais souligner sur ce premier aspect, c'est le type de violence ou de violation qu'il implique. Cette forme de soin, en effet, il faut le souligner, est marqué par une volonté de secourir, de réparer une violence, une souffrance, peut-être en tout cas un mal qui vient de notre condition en quelque sorte, mais il est néanmoins lui aussi une forme de violence, et cela constitutivement. Et déjà dans ce premier soin, on voit apparaître une ambivalence du soin qui est une bienveillance, un secours, mais aussi qui prolonge le tort fait au corps par la maladie, en faisant intrusion. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure dans le problème moral dans un instant. Donc c'est le premier aspect du soin. Et encore une fois, ce premier aspect du soin, il a mis très longtemps à prendre forme en santé mentale. Et évidemment, aujourd'hui, un des débats majeurs en santé mentale, qui est derrière aussi même les lois en question, c'est la place de ces techniques de traitement des maux mentaux, disons, par des techniques objectives. En tout cas, cette place me semble irréductible, et ce serait une violence, de le nier. Mais il y a évidemment une deuxième dimension du soin. Cette deuxième dimension du soin, c'est que soigner, ça n'est jamais seulement soigner quelque chose. Je reprends ici une formule que j'ai déjà employé, mais je voudrais montrer à quel point cela va loin et à quel point c'est évidemment essentiel pour la santé mentale. Soigner, ça n'est jamais seulement soigner quelque chose, c'est toujours aussi soigner quelqu'un. Et soigner quelqu'un, c'est soigner ici, alors je ne voudrais pas forcer le trait, mais c'est vrai que ça n'est plus soigner un problème déterminé, mais la totalité d'une personne. Ça n'est plus soigner un objet qui fonctionne mal, mais un sujet. Un sujet qui, au fond, est une totalité avec son histoire individuelle. Un être aussi, je vais aller très vite, mais ça détermine déjà des tendances différentes de la psychiatrie ou de la psychothérapie, disons. Un être, disons, qui est animé par des désirs, qui est capable aussi de parler, de s'exprimer. Un être de langage de désir, un être mortel aussi, et qui le sait. Et un être, bref, individuel avec son histoire, son existence, etc. Or, soigner, c'est toujours soigner quelqu'un comme ça. Ici, il faut éviter l'erreur inverse, je dirais, de celle qu'on peut faire sur le premier cas. On peut avoir l'impression que le premier type de soin ne concerne pas la psychiatrie. C'est une erreur, à mon avis. Et on le voit bien aujourd'hui. Avec le rôle de la chimie, tout simplement, dans le traitement des troubles mentaux. Mais ce serait une erreur aussi de croire que le soin subjectif et psychique est réservé à la santé mentale. Le soin de la subjectivité individuelle, le soin qui s'adresse à quelqu'un dans sa psyché individuelle et globale, dans son histoire, dans son dans son expression, dans sa parole, qu'il constitue comme un individu, qu'il s'adresse à lui, qu'il crée même en quelque sorte, comme disent certains psychanalystes, hein, qu'il crée la subjectivité, ce soin n'est pas réservé à la psychiatrie. Il est présent dès les soins ordinaires, de la vie ordinaire, pas besoin d'être malade en quelque sorte, c'est condition même de l'émergence d'une subjectivité, hein. C'est ce que Winnicott appelle, oui, les soins de la mère suffisamment bonne, qui soigne les maux objectifs de son enfant, mais qui surtout soigne son enfant, hein, et s'adresse à lui et le crée comme tel. Et puis, c'est présent, à mon avis, aussi dans tous les secteurs de la médecine. Même un secteur hyper technique comporte aussi fondamentalement la prise en compte de l'individu global dans son ensemble. Et je crois même que plus on va dans l'hypertechnique, plus aussi on est animé par le souci de cette unité perdue et toujours à rétablir. J'assistais récemment à la soutenance d'une thèse en réanimation néonatale, enfin en éthique, mais d'une pédiatre qui pratique dans un service de réanimation néonatale, donc, et où évidemment ce qui se produit, c'est que cet événement qui est un événement naturel, la naissance, d'ailleurs naître et nature ont la même étymologie, hein, ça vient de la naskere, la croissance, etc. Cet événement naturel autour duquel tout s'unit, une vie qui surgit, les parents qui sont autour, le médecin qui s'apprête à simplement couper le cordon, vérifier les premières fonctions, mettre le nourrisson sur le corps de la maman, tout à coup ça se brise, il y a un accident néonatal, et là on entre dans la fragmentation hypertechnique, et l'unité risque d'être définitivement perdue. Mais justement, le souci qui est gardé, et c'était l'objectif aussi de cette thèse très précise avec une enquête sociologique sur le rôle des parents dans la décision, etc. Le souci, c'est de réarticuler cette unité, même dans la déchirure hypertechnique, hyper fonctionnelle, et puis aussi socialement répartie des rôles, hein, où il y a les médecins, les parents d'un côté, la société aussi avec ses lois, etc. Et donc, je dirais, ce qui est important à souligner, il me semble, c'est que même dans la médecine dite physique, il y a un soin psychique. Donc il faut dépasser cette opposition où en apparence on aurait un soin purement technique d'un côté, un soin purement relationnel de l'autre, et ça recouperait, disons, les médecines du corps et les médecines de l'âme, etc. C'est à mon avis faux, hein. Ces deux types de soins sont présents dans tous les soins, mais évidemment à des degrés différents. Et je dirais le propre de l'expérience du soin en santé mentale, c'est évidemment le fait que, même s'il y a derrière des lésions précises du cerveau ou de je ne sais quel organe, mais spécialement du cerveau évidemment, bien le trouble mental se manifeste comme une perturbation de la relation psychique, de la subjectivité, je dirais presque, dans son ensemble, même si le trouble est très déterminé, mais en tout cas, il intervient sur ce deuxième niveau du soin. Et donc, d'une certaine façon, c'est quand même une spécificité du soin en santé mentale, me semble-t-il, hein, de manière tout à fait ignorante, c'est que, phénoménologiquement, disons, dans la manière dont il se donne à voir, il se donne comme une perturbation de ce soin immédiat, de cette relation humaine, psychique, et inter-individuel et global. Cette deuxième relation de soin, elle est asymétrique aussi, je dirais, j'y reviens, hein, elle est asymétrique, mais dans un autre sens que la première. Dans la première relation de soin, vous avez quelqu'un qui a le pouvoir de soigner un problème. Dans la deuxième relation de soin, il me semble que vous avez quelqu'un qui se dévoue pour soigner quelqu'un d'autre. C'est asymétrique aussi, mais dans le sens de l'accompagnement plutôt que de la compétence. Et bien là aussi, donc ça rejoint aussi, il me semble que ces deux dimensions sont présentes dans toutes les relations de soins et ne sont pas réservées, l'une d'entre elles n'est pas réservée aux soins physiques et l'autre aux soins psychiques. Évidemment, parmi les points que je voudrais souligner, c'est quand même l'idée que il y a un type de soin approprié à ces défaillances psychiques, et je crois quand même que là aussi, c'est au cœur des débats contemporains, la complémentarité de la médecine objective et de la thérapie, je dirais du soin thérapique, de la thérapie psychique, est une des questions majeures, il me semble, en santé mentale. Alors, je laisse de côté un ou deux points sur lesquels on reviendra dans la discussion, mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses. Et je voudrais en venir ajouter finalement une troisième dimension du soin. Une troisième dimension du soin qui va rejoindre aussi des questions posées par le professeur Prouveau dans son introduction. D'ailleurs, c'est à travers cette grille que j'aborderai volontiers aussi les questions de la distance et aussi du visage perturbé de l'altérité. Je pense que pour un non-médecin, il est tout aussi perturbant de voir les troubles d'une subjectivité, à travers, y compris le vieillissement, que des troubles physiques, d'ailleurs, des défaillances physiques d'un organisme. Mais on pourra y revenir dans la discussion. La troisième dimension du soin, c'est que soigner quelqu'un, c'est toujours aussi soigner, je dirais, un membre de la société. Un membre de la société, quelqu'un avec qui il y a des relations sociales. Et cela, on pourrait le résumer. Enfin, il y a, à mon avis, plusieurs dimensions de cette dimension sociale du soin, mais qui est toujours, là aussi, sont présentes dans toutes les expériences du soin. Mais là aussi, il y a des degrés divers, et là aussi, le soin en santé mentale, évidemment, les rencontre d'une façon très particulière. Pour y résumer, en les mettant sous le signe, ces différentes dimensions sociales, c'est un peu trop facile, mais ça m'est venu en essayant de préparer cette rapide intervention, sous les signes des trois principes de la devise républicaine, la liberté, l'égalité et la fraternité. Je vais aller très vite sur l'égalité, mais j'insisterai plus sur liberté et fraternité. D'abord, la liberté. Le soin, en tout cas le soin en contexte démocratique, c'est un point très important. Toutes les sociétés ne sont pas démocratiques, on n'a pas toujours voulu soigner tout le monde, et de manière égale. Mais dans une société démocratique, la faiblesse induite par le soin et le pouvoir permis par les techniques de soins n'abolissent pas l'égalité des sujets et la liberté des sujets, ce qui d'ailleurs est à la source des problèmes, en tout cas juridiques et moraux, du consentement par exemple, et de la contrainte. Si la contrainte nous pose problème, c'est bien parce que nous supposons que nous sommes tous libres, au fond. Et si le consentement est devenu une exigence, c'est pour la même raison. Et nous avons bien raison. Et l'expérience de la liberté vient de l'expérience de la contrainte et de la violation. Mais maintenant, elle est, d'une certaine manière, un principe qu'on ne peut plus contredire, en quelque sorte. Tout le problème, c'est que l'expérience de la maladie vient à la fois affecter des sujets libres et égaux et en même temps la fragiliser. Et toute la question du consentement est là d'ailleurs. Consentir, c'est exercer une liberté très particulière. C'est exercer la liberté d'approuver quelque chose qu'on ne maîtrise pas entièrement. Le consentement est un mixte. Il y a une nécessité, mais je peux encore avoir au moins ce rapport à cette nécessité de l'approuver ou pas. Consentir ou non. C'est pour ça d'ailleurs que le consentement, enfin moi je le fais aller du consentement purement juridique et formel, on signe une décharge, au consentement métaphysique où on accepte l'idée de mourir. Dans les deux cas, c'est cette étrange expérience d'une liberté qui se plie à quelque chose et qui en même temps reste quand même, garde un pouvoir au moins. Ça change quelque chose de consentir ou pas. Bon, mais ce n'est pas le problème principal ici. Ce que je voudrais souligner, c'est que, évidemment, l'expérience du trouble mental, à des degrés divers, vient perturber l'exercice même de la liberté. Ça a toujours été le problème de la tutelle, pour lequel, traditionnellement, on cite le fou, l'enfant, le vieillard, parfois le sauvage, au XVIIIe siècle. On a trois figures de l'être qu'il fallait mettre sous tutelle. Parfois, ils peuvent être réunis dans la même figure, par exemple la célèbre figure de l'enfant sauvage, qui est en même temps fou, enfant et sauvage. Il y a une triple tutelle par le docteur Itard, par exemple, dans l'enfant de l'Aveyron, Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron. La question est pourtant fondamentale de savoir comment préserver la liberté, même dans la défaillance de la liberté. Mais ce n'est pas réservé aux soins psychiques. Il est évident que, pour consentir à un protocole hyper technique, même si on a tous ses esprits, eh bien, il y a aussi une vraie question morale du consentement qui se pose. Mais bien entendu, si l'exercice de la liberté est perturbé par une maladie objective et subjective, mais le mal affecte à la fois une partie du cerveau, une totalité subjective et un sujet moral. Bon, donc c'est quand même, et c'est toujours le cas à des degrés plus ou moins grands. Donc ça pose des problèmes très, très particuliers et très importants, mais je dirais qu'il faut résoudre. Et c'est ici qu'intervient la société et la loi. Si le soin est un objet social, c'est aussi la société qui va résoudre ses dimensions sociales. Par exemple, avec le rôle des proches, je vais y revenir, les limitations apportées à la contrainte, je pense que ici comme ailleurs, c'est certainement pas tout ou rien, mais la question de la limite est évidemment un objet de débat. C'est bien normal, mais on accepte des limites à nos libertés dans tous les domaines. En France, on a du mal, par exemple, à accepter des panneaux de limitation de vitesse, mais on les accepte quand même, plus ou moins. Donc ça pose des problèmes tout à fait généraux, en fait, même s'il y a des spécificités. Je ne veux pas parler beaucoup de l'égalité, mais c'est quand même un point fondamental, c'est-à-dire l'égalité devant les soins. Et même l'égalité comme aussi, comme contexte, au fond, des pathologies mentales qui sont peut-être aussi et souvent liées à des relations sociales aussi, telles qu'elles sont réellement présentes dans nos sociétés aujourd'hui. Mais ce sur quoi je voudrais dire un mot, c'est sur la fraternité, c'est-à-dire je voudrais surtout insister sur le fait que toute maladie, mais en particulier les maladies, disons, en santé mentale, n'affectent jamais seulement un individu isolé. Ce n'est pas vrai, là encore, seulement des maladies mentales, bien entendu. Un trouble physique, mais aussi même s'il touche le cerveau, par exemple, je pense aux maladies d'Alzheimer, affecte jamais seulement un individu, mais toujours aussi ses proches, etc. Mais le trouble mental peut évidemment aussi affecter les relations avec les autres, d'une manière générale, les relations avec les proches, et aussi les relations sociales occasionnées de la violence, dans un sens ou dans l'autre, violence exercée sur ou par le malade ou le patient. Exercé par lui, éventuellement, si c'est le cas, mais aussi parfois exercé sur lui, évidemment. Et la faiblesse du patient est tout aussi injuste que sa violence quand il l'exerce. Donc, donc cette dimension est tout à fait importante, et je pense qu'il faut l'inclure dans le soin. Et que, en tout cas, parler de soins par contrainte, parler d'injonction de soins, ne peut se comprendre que du point de vue du soin. Je crois que ça devient injuste si c'est au nom d'un principe extérieur au soin, comme tel. Par exemple, si c'est... il y aurait beaucoup à dire sur la dimension pénale, sur l'articulation ici du médical et du judiciaire, comme ça a été d'ailleurs déjà évoqué tout à l'heure. Et donc, je dirais, cette troisième dimension du soin, elle est là aussi à la fois présente dans toutes les expériences du soin et plus particulièrement présente, peut-être, en santé mentale. Elle a une dimension sociale tout à fait évidente. Les troubles des subjectivités sont toujours aussi des troubles des relations. Je me demande même, j'aurais plutôt même tendance à dire que c'est l'inverse, que les troubles mentaux ont deux origines, à mon avis, enfin, c'est audacieux de dire ça, organique d'un côté, relationnel de l'autre. Et que la subjectivité qui est au milieu est au point de rencontre de sa condition organique objective et de sa condition relationnelle intersubjective, qu'au fond, c'est les troubles de ces deux dimensions qui la perturbent. Il ne faut pas nier la première, mais il ne faut pas nier la troisième non plus. Alors évidemment, c'est un cadre très général, mais ce que je voudrais dire, c'est que mon hypothèse, c'est que il faudrait toujours pouvoir articuler dans la relation de soins en santé mentale l'objectivation du problème, la dimension psychique individuelle, et donc thérapeutique, avec par exemple la dimension de la psychanalyse, et enfin la dimension sociale prise comme une dimension du soin à part entière, avec le rôle des proches, enfin les cercles sociaux qui entourent le trouble psychique individuel. Et donc je conclurai, hein, c'était juste un cadre que je voulais proposer, hein, je ne sais pas si je réponds à peu près à la demande, mais je conclurai avec ce que j'avais annoncé, c'est-à-dire, au fond, où est l'exception du psychique ici? À mon avis, encore une fois, c'est une relation de soins comme les autres. Mais elle fait voir des aspects qu'on ne voit pas dans les autres. La dimension psychique, évidemment, on aurait tendance à la masquer. Parfois, on peut s'en passer. Hein, si on a juste une jambe cassée, bon, on peut supporter qu'on ne nous considère pas comme un sujet, qu'on nous manipule comme une chose pour nous mettre un plâtre et qu'après... bon. Mais je dirais, au contraire, plus l'objectivation est grande, plus la subjectivation devrait être importante aussi dans la médecine dite du corps. Hein. Et les maladies mentales nous rappellent au fond que nous sommes tous des sujets psychiques, hein. Pas réservés aux malades. Nous sommes tous physiques, mais nous sommes tous aussi psychiques, c'est même quand nous allons plus ou moins bien. Et je dirais pour la dimension sociale, c'est décisif aussi, hein, parce que l'expérience de la santé mentale et du soin psychiatrique est une expérience qui nous rappelle que notre subjectivité n'est pas un îlot. Un empire dans un empire, comme disait Spinoza, un îlot dans l'océan. Nous sommes traversés par les forces de la société contemporaine, par les perturbations de nos proches, mais aussi du monde en général, en un certain sens. Et on ferait bien de s'en occuper si on veut aussi soigner les individus. Et donc, d'une certaine manière, la société n'a pas à intervenir seulement comme une sorte de victimes supplémentaires, en disant en plus ça nous fait du mal, si en plus quelqu'un va mal, en plus il peut être dangereux, par exemple. Mais au contraire, elle devrait dire, bon, oui, si ça nous affecte, c'est aussi parce que nous sommes partie de la cause du problème, et donc si en effet il y a des conséquences sociales de la maladie mentale, c'est aussi parce qu'il y a des causes sociales de la maladie mentale. Et que donc, soigner les corps et les individus, c'est aussi soigner les relations et la société. Voilà ce que je voulais essayer de dire aujourd'hui.